Allez, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Erev Tov, ravi de vous retrouver ce soir. Zach. Allez, installez-vous, on commence tout juste. On commence cette semaine, on a commencé cette semaine avec la paracha de Lech Lecha. On a commencé finalement l'histoire des patriarches, d'accord, qui est présentée pour la première fois dans notre paracha. Et on sait qu'Akadosh Baruch Hu s'adresse à Avraham en lui disant « Lech lecha, me'artzecha, me'volatecha, me'etavicha, pars pour toi de ta terre, de ton pays natal, de la maison paternelle, vers la terre que je t'indiquerai, ve'esra legoï gadol, je te transformerai en un grand peuple, va'avarechacha, je te bénirai, va'agadela shemecha, je grandirai ton nom, veheye beracha, et tu seras une source de brachot. » Et vous connaissez tous le Rashi qui est sur le début de la paracha. On nous dit, c'est quoi toutes ces brachot qu'Akadosh Baruch Hu garantit à Abraham? Et Rashi nous dit, les fiches à aderer goremet li shlosha dvarim. En réalité, normalement, lorsqu'un individu est sur le chemin et qu'il ne sait pas où il va, ça veut dire qu'a priori, dans son état d'esprit, il va se dire, je vais marcher longtemps. Je ne sais pas où est-ce que je vais arriver, je ne sais pas dans combien de temps je vais y arriver. Il n'en a aucune idée, aucune indication. Et donc Rashi nous dit, en général, quelqu'un qui est en chemin, effectivement, il risque de perdre trois choses. Quelles sont les trois choses que l'on perd généralement lorsqu'on est en chemin? Mema etet piria verivia. On a moins d'enfants, nécessairement. Pour avoir des enfants, il faut être tranquille, il faut être quelque part. Tu ne peux pas avoir des enfants en chemin. D'accord, qui c'est qui va concevoir de faire une famille, d'avoir des enfants, alors qu'il est en plein chemin, il n'a même pas une maison, il n'a rien. Donc généralement, quelqu'un qui part comme ça en chemin, avec sa femme certes, mais qui n'a pas où habiter tranquillement, eh bien il a moins d'enfants. Mais ma tête est à mammon, il a moins d'argent, ben, nécessairement il ne peut pas faire de commerce, il ne peut pas vendre, acheter, avoir quelqu'un qui lui fait confiance pour lui, etc. Et la troisième chose qu'il perd, mais ma tête est Hachem. Et sa réputation, pour avoir une bonne réputation, il faut être installé au même endroit pendant longtemps pour se faire connaître. Et c'est ça la réputation. Donc Akadosh Baruch Hu lui dit, écoute, je vais te demander de partir, de te mettre en chemin pendant un temps indéterminé. Et je sais que naturellement, tu vas te poser la question, mais si je pars, alors mais tout ce que tu me promets, d'avoir une descendance, d'avoir de l'argent, d'être une source, d'avoir une bonne réputation, ben, ça ne peut pas coïncider, ça ne colle pas, d'accord, si tu ne me dis pas exactement combien de temps je vais partir. Et Rashi termine en disant, l'écart isdakek les shalosh berachot alalu. C'est justement pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a confirmé trois brachot en particulier, chez Iftirou à la Banim, à la Mamon, ve à la Shem. C'est exactement les trois brachot qui sont donnés dans le verset, où finalement Akadosh Baruch Hu lui garantit une descendance, lui garantit une richesse et lui garantit une réputation. Donc là où Abraham pouvait dire « Ah ben je vais tout perdre », Akadosh Baruch Hu lui dit « Écoute, vas-y, et les trois choses qui t'inquiètent, naturellement, comme tout homme qui part comme ça en chemin, je te garantis les trois choses en question. » C'est pour ça que les brachot ne recouvrent que ces trois choses-là. Parce qu'on pourrait avoir 10 brachot différentes. Pourquoi Hachem il a donné 3 brachot? Ces 3 brachot par rapport aux préoccupations qu'un homme peut avoir au moment où il quitte son environnement habituel. Une fois qu'on a dit ça, donc on prend conscience effectivement qu'on commence avec la paracha de cette semaine, Lech Lecha, on commence à nous parler des patriarches. Et n'oubliez tout de même pas, justement parce qu'on commence à parler des patriarches et des matriarches, n'oubliez pas ce que nous disent nos maîtres, où ils nous disent de manière explicite « Chayav Adam, Lomar, Matai Yagiu Maasei Le Maasei Avotai, Avraham Yitzhak Yaakov. » On a une obligation, nous tous, de nous poser la question, de savoir à quel moment est-ce que mes agissements vont ressembler aux agissements de nos patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça veut dire que quand on nous raconte ces histoires dans Bereshit sur les patriarches, etc., leur vie, leur comportement, leur tempérament, c'est pas simplement pour nous raconter des histoires, c'est parce qu'en réalité, ils doivent être nos modèles. Et on doit tout le temps se poser la question, ah, quand est-ce que, où est-ce que j'en suis moi dans mon échelle, d'accord, pour arriver C'est bien ce que je dis, pour arriver au comportement des patriarches. Donc, ce n'est pas quelque chose d'inaccessible en disant « Ah non, mais de toute façon, ce n'est pas pour nous. Qu'est-ce que tu veux que je m'intéresse à la vie des patriarches ? Il y a un tel décalage entre ma vie et la leur que c'est inaccessible. » Nos maîtres nous disent « Pas du tout. Tu dois te poser la question sincèrement. Quand est-ce que mes actions vont ressembler aux actions de mes pères ? Et ce n'est pas tes pères, papa, maman. C'est tes pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire tu dois remonter à l'origine de l'histoire du peuple d'Israël et tu dois être en mesure de comparer tes actions aux actions d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Avec leur complexité, avec leurs erreurs. Je vous rappelle que Nachmani nous dit qu'à plusieurs reprises, les patriarches ont commis des erreurs. C'est pas grave, il n'y a pas quelque chose de catastrophique à dire une chose pareille. Et mais, je dois, moi, apprendre de cela. Apprendre de cela, prendre mes agissements à moi et les comparer aux agissements des patriarches. Et toujours dans cette introduction que je vous propose, le Messilat Yesharim écrit « Kol Adam Chayav Lehit Boded Sha'achat Bayom Velarchov Ma'asu Ha'avot Akdoshim Shebachar Bahem Akadosh Baruch Hu. » Le Messilat Yesharim écrit, méforache, explicitement, que chaque jour, tous les membres du peuple d'Israël doivent se demander quelles étaient les particularités du comportement de nos patriarches. Tous les jours, qui vient justifier le fait que Dieu les ait choisis, eux. Ça veut dire qu'à chaque jour, il doit fixer un moment de réflexion sur ce que représentent les patriarches et les matriarches et pourquoi est-ce qu'ils ont été choisis. Chaque jour. Ça peut nous paraître lointain. On peut se dire, attends, mais bon, qu'est-ce que comparer aux patriarches ? Déjà, j'essaie d'avoir une vie à peu près équilibrée. D'accord, mais le Messilat Yesharim nous dit, pas du tout, tu dois vraiment te mettre toi-même en relation avec une sorte de comparaison, pas négative, mais une comparaison de te dire, où est-ce que j'en suis ? Si eux ont été choisis, c'est parce qu'ils avaient tel ou tel trait de caractère. Moi, si je m'inscris dans la lignée de ces patriarches, je dois ressembler à eux. Je dois leur ressembler. Et donc, du coup, où est-ce que j'en suis dans cette ressemblance ? D'accord ? Sur les midotes que l'on connaît sur les patriarches et les matriarches, qu'est-ce que moi j'ai développé ? D'accord ? Leur hospitalité, leur humilité, leur abnégation, etc. Où est-ce que moi j'en suis ? Moi personnellement, pas le raf d'à côté. Moi en tant qu'individu.
Et par exemple, sans porter un jugement, qu'est-ce qui serait bon de s'inspirer des frères qui ont vendu par Youssef, par exemple ?
Bien évidemment. C'est ça. Alors déjà, tu as déjà sauté un cran. Nous, on en parle des patriarches. C'est ce qu'il y a écrit. Il y a écrit à Avot Akdoshim. Les Avot, c'est eux qui ont été choisis. D'accord ? Donc, il y a chez les Avot une intensité et une kedusha qui est déjà plus intense que celle des Banim. Forcément. Donc, bien évidemment qu'on a quand même largement de quoi apprendre des Shvatim, bien évidemment. Mais là, nos Chachamim nous disent, la phrase, c'est pas sur les Banim, c'est sur les Avot. Tu dois te poser la question de te comparer, non pas aux frères qui ont vendu leurs frères, tu dois te comparer à Abraham, Yitzhak et Yaakov, d'accord, en haut de la pyramide, d'accord, et voir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on en est tous par rapport à leur comportement. Et donc, Messilat Yesharim, il a dit, pourquoi est-ce qu'ils ont été choisis ? C'est bien ce qu'on a dit, hein. Pourquoi est-ce qu'ils ont été choisis, eux, par Akadosh Baruch Hu ? Et non, justement, c'est le sujet d'aujourd'hui. Puisque le Messilat Yesharim me pose la question, du coup, nous, maintenant, dans notre étude de ce soir, on se pose la question. Chazak, pourquoi il a choisi Abraham ? C'est la question. Bien sûr, on va y arriver, bien sûr. On va déjà bien s'imprégner de la question, d'accord, pour essayer de comprendre la réponse. Déjà, on nous dit la chose suivante. On nous fait remarquer la grande différence. Vous savez, depuis la semaine dernière, si vous vous souvenez, d'accord, on n'a pas arrêté, comme d'habitude, de taper sur la tête de Noar en disant « Noar, comparé à Abraham, c'est une catastrophe, il n'est pas à la hauteur, il serait considéré comme rien, comme invisible, comparé à Abraham, etc. » D'accord, on a tous en tête ce genre de commentaires. Mais il n'empêche. Il y a une très grande différence entre Noar et Abraham, mais là, du coup, dans le sens de Noar. On dit, je ne comprends pas. Dans la Torah, je parle de la Torah. Dans la Torah, on dit explicitement Noach, Ish, Tzadik, Tamim, Hayabedorotav, Matzachen bene Hashem, et a Elohim italer Noach. Avant de nous dire que Noach va être sauvé du déluge et que Dieu va s'adresser à lui pour lui demander de construire une arche, etc., avant que Dieu s'adresse à Noach, la Torah prend le temps de nous dire Noach, c'est un tzaddik.
Pas de comparaison pour
Abraham, on parle pas comme ça. Krazak, c'est ça la question, je comprends pas. Regardez, de quoi
on parle de personnes comme ça.
Certes, on parle de personnes comme ça, mais pourquoi, la question c'est la suivante, pourquoi tu ne donnes pas un mot sur Abraham avant que Dieu s'adresse à lui? Pourquoi la Torah ne prend pas le temps de faire ce qu'elle a fait pour Noach, de dire simplement que Abraham, c'est un tzaddik. J'ai pas besoin d'avoir des détails sur sa vie. Sur Noach, on n'a pas de détails. On nous dit Noach ish tzaddik. Ok, au moins il est connu comme étant un tzaddik. Puisqu'il est tzaddik, Dieu s'adresse à lui et lui dit: toi, je vais te sauver, toi et ta famille, parce que tu mérites d'être sauvé. Donc quelque part, quand on a en tête la paracha de Noach, on se dit: Dieu s'adresse à un individu lorsqu'il le mérite. Comment je sais quand il le mérite? C'est tout bête, on me l'écrit dans la Torah. C'est tout ce que j'attends. Un mot, je veux pas toute la vie d'Abraham, je m'en fous. Donne-moi un mot, dis-moi Abraham, ish tzaddik. C'est un tzaddik. Du coup, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Abraham en lui disant lech lecha.
Il avait déjà touché à l'idolâtrie,
Abraham. Ah, alors bien évidemment.
C'est ça.
Quel âge a Abraham lorsque Dieu s'adresse à lui pour lui dire lech lecha? Il a 75 ans. Très bien. La fameuse histoire avec l'idolâtrie, il a, selon les opinions, soit 3, soit 40. D'accord? Ok. Mais pourquoi il y a ce grand écart, justement? Pourquoi il y a ce grand écart d'opinion? Parce que dans la Torah, il n'y a aucune trace de cette histoire avec l'idolâtrie. Rien.
C'est un midrash.
C'est un midrash. Alors, bien évidemment, les midrashim, ils sont importants. Mais dans la Torah, il n'y a pas un mot qui nous dit que Abraham c'était un tzaddik. Rien. Du jour au lendemain, on a un texte qui nous dit que Hachem s'adresse à Abraham pour lui dire: allez hop, je te promets plein de choses, des enfants, une descendance, d'une richesse, une terre. Mais dis-moi, avant de promettre tout ça, donne-moi un petit mot, d'accord? Tu mets un verset, tu le dis que Abraham était un tzaddik et que du coup, Hachem s'adresse à lui en lui disant: puisque tu es un tzaddik, voilà ce que je te garantis. Tu as découvert mon nom, etc. Tu as battu l'idolâtrie. Tu as fait quelque chose. Il y a l'histoire avec Nimrod. Enfin, mets-moi quelque chose dans le texte de la Torah.
C'est peut-être parce que, comme il y a eu Noach avant, qui était le premier humain tzaddik, on
alors
comprend que Dieu ne parle que tzaddikim.
Et non. Enfin, on aurait bien voulu ça. On aurait bien voulu ça. Mais on veut. De quoi?
Deux personnages aussi.
Mais Dieu ne s'est pas adressé à eux. Il leur a rien promis aux autres.
Au
personnage, au grand personnage qu'il y avait avant Noach. Il y en avait des grands. Il y en avait. Mais, Khazad, jamais Dieu s'est adressé à eux et il ne leur a rien promis. À Noach, il parle à Noach, il lui garantit sa vie, il le protège sa vie. Mais, on nous dit, parce que Noach, c'est un tzaddik. Donc, moi, je ne veux pas de détails. Je sais que la Torah, elle est avare en mots, d'accord, et qu'elle ne va pas te raconter des histoires d'un petit Avram avec sa truc en train de casser les idoles. Ok, d'accord, c'est un midrash. Mais dis-moi juste, Avraham, c'est un tzaddik.
Une fois qu'on a eu un exemple, il ne peut pas y en avoir un deuxième.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que si Noach a ouvert, la porte à montrer l'exemple en tant que tzaddik, forcément que ceux qui viennent après, c'est beaucoup plus facile pour eux, peut-être.
Regarde, à partir du moment où tu dis qu'il y a 10 générations entre Adam et Noach. T'es d'accord? Et que toutes les générations allaient de plus grande en plus grande décadence. Et que Noach est arrivé et que lui, c'était un tzaddik.
Et à cette époque, tout le monde connaissait la Torah et Dieu, non?
Non.
Non.
Pas la Torah, mais Dieu, quoi.
C'était la morale.
Khazak, alors, ils avaient une connaissance depuis Abraham, depuis Adam Arishon. Depuis Adam Arishon, ils savaient que Dieu existait, puisque Adam, c'est le premier. D'accord, mais très vite l'idolâtrie est arrivée, comme le Rambam l'explique. D'accord, ils ont commencé à honorer le soleil en se disant: si j'honore le soleil, j'honore celui qui a créé le soleil. D'accord, mais après ils honoraient que le soleil. D'accord, ils sont pas remontés jusque à celui qui a créé le soleil. Donc, si tu dis qu'il y a 10 générations entre Adam et Noach, et que le texte nous dit et Noach Matzachen ben Hashem, il a trouvé grâce devant Kadosh Baruch Hu, il était un tzaddik, etc. Il a été sauvé. Bien. Ensuite, il y a 10 générations, je vous rappelle, entre Noar et Abraham. Qu'est-ce qui se passe dans ces 10 générations ? Rebelote ! Tout dégringole. D'accord ? Les générations sont de pire en pire, de pire en pire, de pire en pire. Et voilà qu'Abraham arrive et Dieu s'adresse à lui. Moi, je voulais simplement une symétrie. D'accord, en fait, la question n'est pas de moi, hein, c'est Nachmanide qui la pose, c'est le Rabbeinu Bechaye qui la pose. Il dit, je veux juste une symétrie. De la même façon que pour Noar, tu as dit que parmi toutes les générations, il n'y avait que des Réchaïm, et il y en a un qui est, hop, qui apparaît comme un tzadik, et qu'ensuite, rebelote, on recommence à dégringoler au niveau du spirituel. Dis-moi quand on arrive à Abraham, et Abraham, c'était un tzadik. D'accord, qui mérite de recevoir la parole de Dieu. De quoi ?
C'était pas le seul de la génération, il y avait Shem et Ever, peut-être aussi, il y avait dans le...
Je m'en fous qu'il y en ait d'autres. Mais si toi, tu mérites que Hachem te parle, juste, je veux une justification. Et d'ailleurs, Nachmani nous dit que ce manque de justification, de nous dire qu'Abraham, c'est un tzaddik, Nachmani nous dit, c'est un argument qui est utilisé par les non-juifs pour nous reprocher en nous disant, c'est pas juste votre truc. Pourquoi c'est arbitraire. Pourquoi Dieu a choisi Abraham? D'accord ? On aurait dû dire que c'est un tzaddik et que puisque c'est un tzaddik, Dieu lui a parlé. Sinon, c'est complètement arbitraire. Pourquoi il a pris Abraham ? Pourquoi il n'a pas pris un autre ? D'accord ? Ça veut dire qu'il manque quelque chose. Un mot, il manque en réalité. Tzaddik. Dis-moi qui c'est un tzaddik. C'est tout. D'accord ?
Sur cet argument, on le retourne hein, au niveau des goyim.
Vas-y, comment ?
Bah, avec leur prophète, il y a remarqué, tu vois.
Dans...
Chaque prophète des grandes religions, il n'y a pas un texte de référence qui parle avant que...
Ah, ça c'est certain.
Voilà, donc
l'argument, il ne tient pas. Ça, c'est certain. Oui, bon, Bilam, c'est pas l'ancêtre de la chrétienté non plus. D'accord, ouais.
Mais ma première question qui dit, rappelez-moi, on va penser comme des... Enfin, qu'est-ce qu'on va faire comme prophète? Parce que, enfin, comme patriarche, mais on n'a aucun niveau de ressembler à un patriarche, puisqu'ils sont pris entre guillemets au hasard. On a des gens qui sont beaucoup plus érudits que nous à chacun du niveau. Il parle pas à Hachem, il se passe rien. Donc pourquoi plus a priori Abraham plus mon voisin ou truc, puisqu'il n'y a pas de recette en disant
non.
Si tu fais ça, c'est comme ça.
Et exactement. La recette, de toute façon, on ne l'a pas, parce que même pour Noar, on n'avait pas la recette. On nous a donné simplement le résultat.
Ils sont tous méchants, sont tous machins.
Khazak. Et on a dit, lui, c'est un tzaddik. On ne nous a pas donné la recette. Oui. On ne nous a pas dit qu'est-ce qu'il a fait pour être tzaddik.
Mais nous,
on dit, c'est un tzaddik.
Mais nous, aujourd'hui, il y en a plein qui sont 10 fois au-dessus. Et
nous, c'est sûr. Nous, c'est sûr. Mais Abraham, par exemple, l'histoire de la fournaise ardente. D'accord, on a pris un truc, on l'a jeté. Dis-moi un mot dans la Torah sur cette histoire. Ça me suffit, ça m'aurait suffi, tu vois ce que je veux dire ? On aurait dit Abraham, il a tenu tête contre Nimrod. Nimrod, c'était un gars qui voulait pas la connaissance de Dieu. Il a tenu tête, il a été jeté dans une fournaise. Raconte-moi ça. Pourquoi tu le laisses dans le Midrash ? Cette histoire-là qu'on connaît tous depuis qu'on est tout petit. D'accord ? On a tous l'impression que c'est écrit dans la Torah. En réalité, il n'y a rien dans la Torah sur ça. Il n'y a même pas une allusion. Le petit clin d'œil qu'il y a, on nous dit qu'Abraham est sorti de Our Kasdim. Mais Our Kasdim, c'est un lieu, a priori. Il est sorti d'un endroit qui s'appelle Our Kasdim. Sur ce mot, mais c'est rien, sur ce mot-là, nos chachamim ont raconté toute l'histoire. C'est quoi Our Kasdim? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui Nimrod? C'est quoi l'histoire du père avec les idoles, etc. Tu te rends compte? Ça veut dire que, au lieu de me laisser une allusion comme ça, mets-moi un petit truc, d'accord? Il a été jeté, truc. Il a défendu l'honneur de Dieu. Il s'est sacrifié pour l'honneur. Toi, ah, puisque tu t'es sacrifié en mon honneur, je te parle et je te dis l'Ech Lecha. Tu vois? Rien, un petit verset, mets-moi un truc. Khazak. Et là, on n'a rien. Et donc, il y a un petit manque. Pourquoi il n'y a pas un mot?
Peut-être que pour Noah, c'est tout ce qu'on avait à dire sur l'action qu'il a fait dans sa vie.
Ouais.
Alors que finalement, Abraham, toutes les actions qu'il a faites. Les gens, on se permet de comparer, donc il y a un raisonnement a fortiori ici, qui dit que forcément qu'Abraham est un tzaddik, mais en plus on ne va pas s'arrêter à là, parce que s'il doit être aussi un exemple, avec les 10 épreuves qu'il a eues dans sa vie.
Oui, mais qui viendront qu'après.
Oui, c'est qu'après, c'est qu'à partir du moment où Dieu.
Bah, qui viendront qu'après. C'est quoi le truc? Qui viendront qu'après.
Est-ce que c'est la Torah qui dit que.
Que quoi?
Ou est-ce que c'est nous qui le déduisons?
Que quoi?
Abraham était donc un plus grand tzaddik que Noah sur sa génération?
C'est les Chachamim qui le disent. C'est la paracha de la semaine dernière.
Donc, d'accord. Donc ça, c'est pas.
C'est dans la Gemara en fait.
D'accord.
Moi, j'ai l'impression que Dieu a parlé à Noé sans qu'il s'y attende, alors qu'on nous a toujours rappelé qu'Abraham, lui, il a mené une réflexion profonde pour se poser la question, est-ce qui fait que Dieu lui a parlé ?
Oui, mais ça encore, c'est que les Midrashim.
Oui, bon, et puis non, il n'y a pas une seule trace.
Khazak, ça encore, c'est que les Midrashim.
Il a eu la même épreuve de voir le monde se détruire et puis...
Mais c'était après.
Ouais, c'est heurt. Certes, d'accord.
Sodome et Gomorre qui a été détruit.
Ouais, exact. Mais ça sera que après. Alors du coup,
Moshe, il a rien fait en soi de plus ou de moins que qu'Abraham.
Alors, très bien. Justement, j'allais parler de Moshe tout de suite. J'allais prendre comme référence Moshe Rabbeinu, parce que nous, effectivement, le deuxième critère qu'on peut avoir, c'est Moshe. Donc ta réflexion est bonne, mais tu dis, on ne sait rien sur Moshe quand Dieu lui a parlé. Si, pourtant, on sait. Quoi ?
Il a été à l'opposé de Judaïsme.
Non. Non. Ça, c'est pas écrit.
Il était prince égyptien.
Ça, c'est. Désolé, mais c'est pas. C'est des Midrashim. C'est des Midrashim, on sait pas exactement comment il a vécu, etc.
Vous savez le potentiel futur de
la. Ah ouais, mais d'accord, mais alors quoi, tu mises aujourd'hui sur un potentiel futur ?
C'est sa sœur qui avait problème sur lui, après il a été sauvé dans les eaux du Nil.
T'as raison. Mais moi, je veux une histoire sur Moshe. Qu'est-ce qu'on sait sur Moshe ? Écoutez. Ah, deux minutes. Non, brebis, c'est dans le Midrash. Moi, je veux dans le texte.
Il a tué l'Égyptien.
Vous avez bien compris que là, notre approche est dans le texte. Noach, on ne s'est pas contenté d'un Midrash pour Noach. Noach, le texte a dit tzadik. Ah, ok, ça me va. Après, les Midrashim vont nous dire pourquoi c'est un tzadik, etc. C'est les Midrashim. Mais la Torah a utilisé un mot pour Noach. Il a dit tzadik. Ça me suffit.
Juste un truc. Est-ce que, par hasard, Moshe, il a été visé depuis sa naissance ?
Visé ? Qu'est-ce que je veux dire par visé ? C'est-à-dire qu'il a été surveillé ?
Depuis sa naissance ?
Oui.
Pourquoi ?
Parce qu'on attendait quelque chose de lui. On sentait quelque chose.
D'accord. C'est-à-dire que si un homme, une femme ou un enfant... Il n'avait pas le droit, où il fallait tuer les garçons. Ils l'ont pris, ils l'ont mis sur un île, ils l'ont poussé vers une servante, enfin vers la princesse.
Ouais, ok, c'est, ça a pris sa route.
Dès le départ, c'était fait qu'il fallait faire ça. Il fallait que ça soit comme ça.
Il fallait nécessairement que ça soit comme ça, ça c'est certain.
Ouais.
D'accord.
Et pourquoi lui et pas un autre ? Parce que j'imagine que les bébés.
Alors, deux minutes. Est-ce que Dieu s'est adressé à Moshe ? Lorsque Moshe était jeune.
Non, mais vous voyez
Khazak.
Qu'il était surveillé.
Non, surveillé par sa famille, pas par Hachem.
Ah, d'accord.
Est-ce que Dieu a parlé à Moshe lorsqu'il était jeune ? Non.
La première fois, c'est Obusson.
Quel âge il avait ?
80.
Super. Non, la première fois, 40. Ah bon ? Non, on s'en fout, mais c'est vieux, c'est pas petit.
La vie de Moshe, c'est 3 fois 40. D'accord ? Les étapes, c'est 40, 40, 40.
D'accord, mais
comment les époques ? 40, il découvre Dieu, 40 en Égypte, 40 dans le désert.
C'est 40 ans, donc effectivement, dans le désert, 40 ans avec Yitro, et 40 ans dans le désert.
Il est resté si longtemps, donc il a laissé le peuple 40 ans.
Exactement, et il y a des midrashis pour savoir qu'est-ce qu'il a fait pendant les 40 ans. Est-ce qu'il était que chez Yitro ? Il y en a qui disent qu'il était parti à Couche. Et sa femme, elle vient de Couche. Certains nous disent que c'est pas la fille de Yitro.
C'est où Couche en Inde ?
Non, c'est Afrique.
Ishakushit.
C'est Afrique. Ah,
oui. Si, tu dis que c'est une Ishakushit.
Oui,
Midian, c'est pas Couche.
Il y a un avis qui dit que c'était...
D'accord, intéressant. C'est encore une autre histoire, ça.
Qu'il a eu une autre femme aussi avant.
Ishakushit.
Mais est-ce que c'est Noah ?
Donc, juste pour pas s'éparpiller. Prenons donc l'exemple de Moshe. Dieu ne s'adresse pas à Moshe au début de sa vie.
Non.
Khazak. Mais attends, avant l'histoire du buisson ardent, donc la première fois où Hachem va s'adresser à Moshe, qu'est-ce que l'on sait dans le texte, laissez les Midrashim ? Qu'est-ce que l'on sait dans le texte sur la vie de Moshe ? Réponse, trois choses.
On sait qu'il était Tov.
Alors, non, parce que Tov, on peut pas... Moi, je veux au niveau de son comportement, pas de ce qu'il représente. On sait trois choses. Non. Trois choses précises. Je vous les lis. Vayhi bayamimahem vayigdal Moshe vayetze alechav vayar besivlotam. La première chose, explicite dans le texte, que l'on rapporte sur Moshe, c'est il est sorti vers ses frères et il a vu leur souffrance. Il a constaté leur souffrance.
Il a quel âge, là ?
40 ans.
D'accord. Mais avant,
rien. Rien ? Okay. Donc, première histoire qu'on raconte sur Moshe, c'est la première, toute première. Il sort et il constate la souffrance de ses frères. OK ? Et ensuite, il voit la... Enfin, c'est lié. Il voit un hébreu frapper, un égyptien frapper un hébreu et il tue l'égyptien. Ça, c'est lié. C'est la première histoire. Okay, donc, on nous raconte ça explicitement dans la Torah. Ça, c'est pas un midrash. Ça, c'est écrit. Deuxième chose que l'on apprend sur Moshe, va yetze bayom hacheni. Le lendemain, il sort à nouveau. Et là, cette fois-ci, il voit deux juifs se taper dessus. Razak. Et il intervient. Et il intervient. Pourquoi tu frappes ton frère? Troisième chose que l'on sait sur Moshe, va yivrach Moshe mipenei Pharo, que Moshe fuit devant le pharaon, puisque le pharaon a appris qu'il avait tué un égyptien. Il se retrouve à Midian. Et qu'est-ce que l'on nous dit sur Moshe à Midian? Une seule chose, en réalité. Il arrive au puits, et les bergers embêtent les filles de Yitro, et il intervient pour les sauver.
Oui, mais ça, c'est tous les garçons de 40 ans.
Non, ben non, pas du tout, pas du tout. Ben non, non. Mais non, pas du tout. Pas du tout, c'est un gars qui est pourchassé par les Égyptiens. Il arrive dans un coin, il aurait très bien pu rester dans son coin, c'est tranquille, sans se mêler de l'histoire. C'est pas ma vie, c'est pas mon histoire, je reste dans mon coin. On peut pas savoir, tu peux pas dire, tout le monde aurait fait comme ça. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas si j'ai les Égyptiens qui sont derrière moi, etc. Ok, on sait pas. Mais c'est tout ce que l'on sait sur les histoires de la vie de Moshe avant l'histoire du buisson ardent. C'est tout. On peut rajouter le midrash, mais c'est un midrash, sur l'histoire de la petite brebis là, qui s'est égarée pour avoir de l'eau, qu'il a portée sur l'épaule, mais ce n'est pas écrit ça dans la Torah. Donc il n'y a que trois choses qui sont écrites dans la Torah.
Il commence en Ishivri, bon. il finit libre, quoi. Je ne sais plus le terme exact, mais il commence en Ish de Mitzraï, pardon, et il finit Ishivri.
D'accord.
Donc c'est quand même qu'il y a un step qui est passé entre le début et la fin.
Donc la question c'est de savoir, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que Moshe, c'était Moshe au début égyptien, et qui fait que Moshe il est choisi par Hachem pour libérer le peuple d'Israël? Et on nous dit, nos maîtres nous disent, que si on a raconté ces trois histoires, c'est que ces trois histoires-là sont la raison, les raisons de la sélection de Moshe Rabbeinu. Lesquelles? Alors on nous dit, écoutez ça, c'est dans le Shaare Kedusha du Arizal. Velo zacha Moshe lechol ma'alotav. Écoutez ça. Moshe n'a mérité tous ces grands niveaux d'élévation spirituelle. Et là, uniquement. Sheaya ohev Israël ou mitzta'er betzaratam kemo shamru chazal ala pasuk vayar besivlotam. Ce qui fait que Moshe a été sélectionné pour être le libérateur du peuple d'Israël, c'est parce que il ne supporte pas l'injustice et il porte sur ses épaules la souffrance de ses frères.
Ah mais ça fait 40 ans qu'il la voyait. Enfin, je rejoins ce qu'il dit. Ça fait 40 ans qu'il la voit, la souffrance de ses frères.
Ok, mais il y a un moment, t'as raison, il y a un moment où il dit stop, oui, ça suffit.
Donc ça ne le caractérise pas, c'est juste un événement. Si. Comme si moi, 50 fois je sors, je vois quelqu'un se faire taper, une fois je réagis.
Sauf si, on considère que pendant la première période de sa vie, il n'avait pas pris conscience de ce qui se passait à l'extérieur du palais.
C'est ça.
Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu es à l'intérieur du palais. Tu es à l'intérieur du palais, tu n'es pas vers l'extérieur. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu le sais, mais tu n'as pas pris conscience de ce qui se passe à l'extérieur. Ok, mais tu n'as pas une conscience de ce qui se passe à l'extérieur. Jusqu'au moment où tu dis, oh, ça ne peut pas continuer comme ça. Il sort. J'ai pas dit qu'il n'est pas sorti. Il n'a pas pris conscience de ce qui se passe dehors. Il n'a pas de conscience de ce qui se passe dehors. Il vit sa vie pour l'instant tournée sur lui-même. C'est pour ça que Dieu ne s'adresse pas à lui pour le moment. Je ne m'adresse pas à toi. Quand est-ce que je m'adresse à toi? Quand maintenant ton tempérament se montre que, exactement, que tu ne supportes pas, que tu interviens, que tu tues un Égyptien, que même quand devant des étrangères à Midian, tu interviens, tu ne supportes pas l'injustice, tu aimes tes frères parce que tu es prêt à intervenir et à tuer un Égyptien, te mettre en danger pour sauver tes frères. Et on nous dit que c'est pour ça que Dieu s'est adressé à Moshe. Donc là encore, Dieu ne prend pas Moshe de manière arbitraire. Il attend que Moshe fasse ses preuves. Quand Moshe fait ses preuves, il lui parle. Noach, Dieu attend que Noach fait ses preuves. Quand Noach fait ses preuves, Dieu lui parle. la question, pourquoi pas Abraham ? Donne-moi le même modèle. Je veux que Abraham fasse ses preuves de manière explicite dans la Torah, je veux pas les Midrashim, de manière explicite. Et une fois qu'il fait ses preuves, Dieu lui parle, j'ai aucun problème. Mais attends qu'il fasse ses preuves. Nous, on va nous dire, non, mais oh, il va avoir 10 épreuves incroyables et il va les surmonter. Non, mais ça, c'est rétroactif. Moi, je veux pas un truc rétroactif. Je veux, avant que Dieu lui promette tant et tant de choses, je veux d'abord qu'il fasse ses preuves, comme on le fait pour Noar, comme on le fait pour Moshe et pour d'autres aussi.
Pourquoi il faudrait nécessairement une analogie ?
Parce que il faut, Jacques Baruch Hu, il doit être juste. Il doit être juste. Et la justice, c'est quoi ? C'est que un homme est méritant. Quand il est méritant, Dieu s'adresse à lui. Tu peux pas comme ça, sans raison,
si
recevoir
ça,
la parole.
Tu es obligé de parler comme ça de tous.
Exactement. Moi, c'est tout ce que... C'est, enfin, moi, c'est ce que les Rachamim m'attendent. Pourquoi il y a cette différence ?
Est-ce qu'on aurait pu imaginer que Moshe ne fasse jamais ses preuves ? Parce qu'il avait été sélectionné dès le départ, avant même de les faire.
D'accord. Même si, en potentiel, il a, Moshe, bien évidemment, il a déjà été choisi, etc. Tu as raison. Mais malgré tout, on voit de l'histoire que la Torah nous rapporte que, malgré le potentiel, Dieu, il reste silencieux. Jusqu'à que Moshe, il montre quelque chose. Il met quelque chose sur la table.
On peut imaginer qu'il y avait un deuxième Moshe ailleurs et que si celui-ci était resté...
Certainement pas, parce que Akash Baruch Hu, il calcule avant, mais il n'empêche que Hachem attend de lui adresser la parole tant qu'il n'y a pas eu quelque chose, d'accord, qui est nécessaire pour être le dirigeant d'Israël. Pour être le dirigeant d'Israël, il faut avoir de la compassion, il faut partager la souffrance de tes frères, et il faut détester l'injustice.
Et ces trois choses, on ne les retrouve pas chez Aaron, qui était en plein cœur de l'action, de la souffrance.
Si, bien évidemment. Bien évidemment. Mais Aaron, il fallait. Alors, c'est encore un autre sujet, mais il fallait que le chef du peuple d'Israël, que le dirigeant d'Israël, soit un homme libre depuis sa naissance. Parce que d'un point de vue psychique, tu ne peux pas t'adresser au pharaon lorsque tu sors d'une prison. Tu n'as pas la force morale. D'accord, de t'imposer face au pharaon si toi-même t'as pas grandi en étant libre.
Pourtant, c'était Aaron qui parle.
Oui, c'est Aaron qui parle, mais en fait, il n'est que le rapporteur de la stature de Moshe. D'accord, c'est la stature de Moshe.
Yosef ?
Quoi ?
Il est sorti de prison quand il a parlé à pharaon.
Oui, mais il a grandi comme un homme libre. Il a grandi. C'est pas qu'il n'est pas passé en prison. Il a grandi. Il fallait un homme qui grandisse libre. D'accord, qui n'a pas été sous le joug de l'esclavage depuis sa naissance. Du coup, pour répondre à notre question.
Il a parlé à Noah, aux trois patriarches et à Moshe. Il a parlé à d'autres personnes.
Ouais, il y a eu pas mal de. Oui, il y a eu. Il y a eu des discussions rapportées. Alors, la réponse qu'on nous propose, celle du Maharal de Prague. Je la trouve vraiment géniale. Et voilà ce qu'il dit, le Maharal. Alors, que je vous trouve là, dans les mots, c'est super. Excusez-moi, c'est une petite combinaison. Il est là. Le Maharal de Prague passe par une Mishnah des Pirkei Avot. Et il nous dit Kol ahava sheiteluya badavar, batel davar betela ahava. Veshe ena teluya badavar, ena betela leolam. Une très jolie Mishnah, tellement vraie. On dit tout amour entre deux personnes, que ce soit des amis, un homme et une femme, etc. Tout amour qui se construit sur une raison extérieure, lorsque la raison extérieure disparaît, l'amour ne tient pas. Si on est copains uniquement parce que t'es riche, t'arrêtes pas de me faire des cadeaux, etc., le jour où t'es plus riche, on n'est plus nécessairement copains. Parce qu'on a construit notre amitié sur cette richesse. Alors que un amour qui est construit uniquement sur la relation entre les deux personnes, sans éléments extérieurs, etc., eh bien, du coup, puisqu'il n'y a pas un élément extérieur, c'est un amour qui est éternel. Okay. C'est une très jolie Mishnah dans les Pirkei Avot qu'on rapporte souvent au mariage, etc. D'accord ? Un amour sincère, authentique, qui n'est pas conditionné par quelque chose.
C'est aussi la base des conversions, non ?
Oui, aussi, t'as raison. D'accord ? Si quelqu'un il veut se convertir parce que, grâce à ça, il va avoir un statut social, ou il va, etc., bah, le truc, c'est que ça ne peut pas tenir, d'accord ? C'est un amour qui n'est pas authentique, exactement. Et alors, vous allez dire, ok, d'accord, c'est très joli, mais quel est le rapport avec notre histoire à nous ? Écoutez ça. « Ba leodia tigva ubitachon Israël bagalout » Le Maharal donne une intro comme ça. Il dit, écoute, ce que je vais te dire maintenant, ça va aider l'ensemble de l'histoire juive pendant 2000 ans d'exil. En quoi ? Chez I. Efchar, chez Tie Ahava Betela Laolam, l'amour qui existe entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu, cet amour-là ne peut jamais être rompu. Pourquoi il n'est pas rompu cet amour-là ? Nous dit-il. Sheare Ahava Shei Hashem Itbarach Ahav Israël, Lo Haita Teluya Badavar Klal. Il ne fallait pas justifier la sélection d'Abraham par une qualité particulière. Il ne le fallait pas. Pourquoi ? Parce que si tu justifies sa sélection en disant « parce que c'est un tzaddik, il a été choisi pour être le premier du peuple d'Israël, etc. » Ça voudrait dire, dit le Maharal, que si un jour il n'est plus tzaddik, ou si un jour sa descendance n'est pas au même niveau que lui, alors du coup, puisque c'était une condition qui a justifié son choix, sa sélection, ça voudrait dire que si la condition n'est plus là, le choix peut disparaître. Or, le lien entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu est un lien qui ne peut pas être rompu. Donc il ne fallait surtout pas qu'on le justifie par quelque chose. Et c'est pour ça que toute l'histoire des idoles est restée dans le Midrash et qu'on n'en a pas mis un seul mot dans la Torah volontairement. On n'a pas voulu écrire que Abraham il a été choisi parce que c'est un tzaddik. Parce que ça laisserait sous-entendre que si dans sa descendance on n'est plus des tzaddikim, alors peut-être que l'amour y tombe. Et c'est pour ça que le Nachmanide disait, c'est un reproche que les goïms nous font. C'est quoi la chrétienté ?
La chrétienté, c'est que vous n'êtes plus le peuple élu.
La chrétienté se construit sur ça, en disant, vous, le peuple d'Israël, vous avez été choisi, mais parce que vous étiez à la hauteur, vous étiez des croyants, vous étiez capables comme vos patriarches, etc. Mais le fait qu'on vous voit en exil, et que vous n'avez plus de terre, et que vous n'avez plus de temple, c'est bien la preuve que vous n'êtes pas à la hauteur, puisque si Dieu vous laisse vous écraser partout dans le monde, c'est que vous n'êtes plus à la hauteur. Donc si vous n'êtes plus à la hauteur, Dieu, il ne veut plus de vous. Et nous, on vous remplace. C'est la chrétienté, c'est l'histoire de la chrétienté. D'accord, leur fameux Verus Israël, le vrai Israël. Ils disent que c'est eux. Mais pourquoi ils disent ça ? Parce que eux le justifient en se disant, il faut, vous pouvez être choisi par Dieu, mais il faut être à la hauteur pour l'être. Et le Maharal vient nous dire, mais non, justement. De la même façon que pour Abraham, on nous dit, « Asher bacharta be'Abraham », tu as choisi Abraham. C'est une sélection qui est complètement arbitraire, c'est ça, bacharta. Tu as pris Abraham. Tu ne l'as pas justifié par un comportement, tu n'as pas dit parce que c'est un tzaddik, rien. Tu l'as pris. Et tu as créé un lien entre toi, lui, et la descendance d'Abraham. Et donc on voit bien que cette sélection-là, elle n'émanait pas d'un comportement particulier qui a été rapporté par la Torah. Il a été choisi uniquement. C'est complètement arbitraire.
En l'occurrence, au départ, c'est pas un mécréant.
Ok.
Et donc du coup, enfin, il aurait choisi une personne lambda, ça aurait appuyé cet argument.
D'après le texte de la Torah, d'après le texte, ouais. C'est une personne lambda. Ouais. D'après le texte, hein, reprends ouais. Le texte, c'est une personne lambda. Ouais.
Et par contre, y a...
On ne sait pas pourquoi lui. Ouais. Justement, c'est volontaire d'avoir tué toute cette histoire-là pour que l'on puisse comprendre que ce choix-là, c'est une bechira. Ouais, c'est une sélection.
D'ailleurs, Noir, il est appelé Ish, et Ish, ça correspond à... Il a déjà une...
Il est grand. Rien, il n'est même pas Ish. Rien.
Ses actes futurs...
Ah, maintenant voilà. Et c'est le texte qu'on fait dans la tefila de tous les jours. Qu'est-ce qu'on dit dans la tefila tous les jours ? Asher bacharta be'Avram, tu as choisi Avram, sans, hein ? Umatsata et levavo ne'eman. Et tu as trouvé son cœur qui était digne de confiance. Ça veut dire, tu l'as choisi sans raison, ok. Il s'avère que finalement le choix était bon, parce que grâce aux épreuves, eh bien il s'est avéré être à la hauteur, parce qu'il a tenu les épreuves. Donc, ou Matsata, tu as trouvé que son cœur était bon, mais le point de départ, c'est une Bechira. Bechira, c'est je prends quelqu'un sans savoir pourquoi lui.
Mais la condition avec les brachot de Yitzhak, avec Esav et Yaakov, il y a quand même cette condition de... Si on est tzaddik, alors le...
Après, nécessairement, le fait d'être tzaddik te facilite ton accès aux brachot. Mais même si tu l'es pas, et que tu es dominé par Esav, mais il n'empêche, c'est toi Israël. C'est toi Israël, je n'y peux rien, on ne peut plus effacer ça. C'est pour ça que la Gemara nous dit, Israël, afal pichechata, Israël où ? Israël, même s'il faute, ça reste Israël, qu'est-ce que je te dis ? Parce que le choix en Abraham a été fait de manière complètement irrationnelle, volontairement irrationnelle.
Il n'y avait pas Dieu qui s'est dit, bon, c'est maintenant que je veux mon peuple. Donc je vais chercher quelqu'un dans cette génération qui... Parce que sinon, il aurait pris Noé, il aurait pris...
En fait, il a... On nous dit que la Neshama de Abraham, c'est une Neshama qui a été façonnée par Akadosh Baruch Hu directement et qui a été mise dans le corps d'Abraham. Une Neshama spécifique, exceptionnelle. Elle a été envoyée au moment où Akadosh Baruch Hu l'a décidé. Donc, bien évidemment, c'était le moment où il fallait que... On était après... Je rappelle, le monde, il est construit en 2000 ans. D'accord ? Les deux premiers millénaires, c'est Tohu Bohu. Les deux millénaires suivants, c'est la Torah. Et les deux millénaires suivants, c'est le Mashiach. D'accord, l'époque du Mashiach. Donc là, on est en 1948, naissance d'Abraham. D'accord, de l'année création du monde. Hein ? 1948. Donc on est à la fin des deux premiers millénaires. Fin des deux premiers millénaires, il y a un nouvel ère qui commence. Et c'est l'ère de la Torah. L'ère de la Torah, c'est Abraham qui va porter l'ère de la connaissance de Dieu, en réalité. D'accord ? Donc il fallait que ça soit à ce moment-là. Mais la Neshama d'Abraham, c'est une Neshama qui a été façonnée spécifiquement pour Abraham, pour le peuple d'Israël.
Mais par contre, dans le Ramchal, dans le Derech Hashem, il dit qu'au contraire, Abraham, il a été élu quand même.
Il a été élu, c'est bien ce que je dis. Ouais, c'est ça une Bechira.
Une élection quand même. Donc
c'est quoi une élection ? Dans le sens de nos Chachamim, Bechira, c'est je te prends. Hop, voilà, je t'ai élu. Chazak. Le Maharal nous dit, surtout sans raison. N'en cherche pas, c'est pour ça que la Torah, elle ne veut pas en mettre de raison. Pour montrer que ce n'est pas talouille, ça ne dépend pas d'une condition externe. Ça ne dépend pas de condition. Il a choisi Abraham.
Je pensais qu'il faisait pas Abou Dazara, je pensais qu'il était...
Eh ouais, mais ce n'est pas écrit dans la Torah.
Il y a eu un épisode quand même
ouais.
Au moment du Vaudor où il a voulu anéantir...
Oui, mais il a voulu anéantir.
C'était la génération.
Mais non, il a voulu anéantir, mais repartir à partir de Moshe. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire qu'en fait, il n'a pas coupé le lien avec le peuple d'Israël. Il a voulu avoir un peuple un peu plus à la hauteur. Mais il n'empêche, et c'est pour ça que le Maharal nous dit, c'est un message pour nous accompagner dans l'exil des 2000 ans d'exil. Parce qu'effectivement, quand tu as ça en tête et que tu es en exil et que tu es massacré par les nations, etc., et tu te dis, coûte que coûte, Akadosh Baruch Hu n'abandonne pas son lien qu'il a avec moi.
Mais Abraham, c'est le père de toutes les religions. Je ne sais pas que de la religion pour lui.
Oui, mais je te rappelle qu'après, la sélection a continué.
D'accord, donc c'est le fait qu'il y en ait trois.
Exactement. Et ensuite, ça a été, au fur et à mesure, ça a été retréci, quoi, le cercle. Et juste pour finir. Abraham, à la différence de Noé, parce que pourquoi pour Noé il fallait une justification et pas pour Abraham ? Écoutez, ça c'est un grand principe qu'on nous donne, après je vous laisserai avec ça pour réfléchir. On nous dit, Noé, c'est un individu. Abraham, c'est un klal. C'est une collectivité.
L'autre c'est un prat alors.
Quand on est au niveau de l'individualité, il faut, pour être sauvé, il faut être à la hauteur. Il faut le justifier. Lorsque l'on est à l'échelle du collectif, là, c'est quelque chose qui émane d'une volonté d'Akadosh Baruch Hu directement. Même si tu ne le justifies pas par un comportement. Abraham, il a une neshama collective. Noar, il a une neshama pratite. Donc, pour sauver Noar, en tant que prat, d'ailleurs, Noar, il s'intéresse qu'à sa vie à lui, il ne s'intéresse pas à la vie de l'humanité. En tant qu'individu, si tu veux mériter d'être sauvé, il faut que tu mettes sur la table un comportement, quelque chose de bien. Abraham, c'est pas en tant qu'individu, il est en tant que klal. Et quand on est au niveau du klal, on n'a pas nécessairement besoin d'un mérite particulier. C'est quelque chose qui nous dépasse. C'est comme la sortie d'Égypte. On sort d'Égypte, on n'a pas de mérite, on n'a rien. On n'a rien. Ah, mais pourquoi je l'ai fait sortir ? Parce que j'ai promis à Abraham. Ok, c'est une promesse. Ah ouais, pourquoi tu l'as promis à Abraham ? C'est bon, c'est mon histoire à moi. Il porte en lui toutes les neshamot d'Israël.
Pour être le clan, il faut essayer d'aller vers les autres, sauver les autres.
Razak, et qu'est-ce qu'il fait Abraham ? C'est sa nature. Il prie pour Sodome et Gomorre, il prie pour machin. C'est Abraham, c'est lui. Razak, alors que Noar, lui, moi c'est le prat. Noar, c'est le prat. Abraham, c'est le clan. Donc voilà pourquoi il n'y a pas de justification de la sélection d'Abraham dans la Torah. Chazak ou Baruch. Gemara.